RMC.
Nous sommes de modestes provinciaux qui seraient très satisfaits d'être champions d'automne.
C'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie.
On s'est tapé dans la main en visio dans la nuit.
After Lyon,
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'After Lyon, le podcast qui débat de l'actu de l'OL toutes les semaines, dispo sur vos plateformes habituelles ou sur les applis RMC, RMC Sport. Vous pouvez vous abonner pour ne rien rater, vous pouvez aussi commenter ou encore noter vos épisodes. Cette semaine, les tauliers sont là. Salut coach Courbis.
Salut les amis et salut à tous.
Et salut Edouard G en direct de Lyon.
Salut Thibaut, salut coach.
Alors, salut. En cette fin d'année scolaire, c'est l'heure du conseil de classe. L'After Lyon note la saison des joueurs de l'OL aujourd'hui. Qui est le taulier de l'année? La révélation, le boulet? C'est notre débat de la semaine. Et en fin d'épisode, Edouard nous donnera les dernières infos, l'actu chaude autour de la saison prochaine et ça commence à se mettre en place, notamment autour du recrutement. La saison de l'Olympique Lyonnais, messieurs, dames, commençons par celui qui a porté l'OL et on va en débattre ensemble. Roland, Edouard, pour vous, qui est l'homme de la saison, le joueur de l'année à Lyon?
Alexandre Lacazette.
Lacazette, Edouard.
Ah, c'est difficile de trouver un autre.
Lacazette aussi pour moi. 39 matchs cette saison, saison exceptionnelle, 31 buts toutes compétitions confondues, 27 en Ligue 1, il termine deuxième buteur derrière Mbappé, 6 passes décisives. Il est aussi entré encore un peu plus dans l'histoire de l'OL puisqu'il est devenu le deuxième buteur, il a dépassé Bernard Lacombe, deuxième buteur de l'histoire du club derrière Dinalo. Bon, pas de débat sur l'homme de la saison, il n'y avait pas un autre nom avec lequel vous avez hésité?
Non.
Lacazette.
En plus, mais c'est vrai que pour rajouter, il y a quand même 27 matchs sur les 39 que tu as dit où il a au minimum marqué un but ou une passe décisive. On se souvient aussi de son quadruplé. Et puis à part la période où il a été blessé sur 3 matchs entre mi-février et début mars, il a toujours été là et je regardais ses buts. C'est de la première à la dernière journée. Quoi. Franchement, une constance magnifique. Alors après, c'est vrai que... Il y en a peut-être d'autres, c'est peut-être aussi des tauliers, mais c'est vrai qu'il y a le buteur et puis il y a celui aussi qui ne marque pas de but, mais qu'en empêche, Anthony Lopez.
Alors bah tiens, justement, on va en parler. Et tu parlais de cette période d'absence de Lacazette en mars, on s'en souvient bien, hein. C'est la période où Lyon remontait et finalement s'est arrêté un petit peu en même temps que Lacazette et était redescendu un petit peu. L'homme de la saison, c'est Alexandre Lacazette, le taulier de l'année. Et là, il y aura peut-être débat. Edouard, tu parlais d'Anthony Lopez, c'est lui ton taulier de l'année pour toi?
Oui, alors lui et puis peut-être aussi l'ADN de Lyon, l'académie de l'OL pour des joueurs qui ont été formés et qui ont marqué à un moment donné. Alors eux n'ont pas forcément... Alors Anthony Lopez, un peu comme Alexandre Lacazette, a été lui du début à la fin sans reproche. Les autres que je vais citer ont été, que ce soit Maxence Cacré, Corentin Tolisso ou Ryan Cherki, ils ont été bons à des moments donnés, mais ils ont porté à des moments différents. Ça, c'est pour des joueurs formés à l'OL. Et puis après il y a Dejan Lovren, mais lui c'est un petit peu obligé que ce soit à mi-temps parce qu'il est arrivé qu'au mois de janvier. Donc il y a, je trouve, au moment où l'OL prend financièrement un tour américain, c'est bien que le signe de la formation lyonnaise avec des Lyonnais, on n'est pas dans le gang des Lyonnais, mais ce côté-là de la formation à la lyonnaise, ben, un petit peu comme quand on était passé de Gerland au Groupama Stadium, bien c'est l'académie qui avait sauvé le club à ce moment-là parce que ça a été la révélation des Fekir, des Tolisso, Grenier et autres. C'est une autre forme aussi de sauver, même si quand je vous parle de sauvetage, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Mais voilà, je trouve qu'il y a cet ADN à travers Anthony Lopez et puis les autres, peut-être un petit peu à mi-temps pour les autres.
Donc c'est Lopez que tu ressors,
c'est
coach,
Lopez que je ressors. Ouais.
Ton taulier de l'année.
Je mettrais plutôt Lovren, même si il n'a joué que la moitié. Je crois que c'est indispensable d'avoir un arrière central de métier. On le voit à Nice, on le voit à Lille. Donc, et là aussi, du côté de Lyon, on a essayé, mais ça a été un échec avec Boateng. Et donc là, par contre, l'idée d'avoir ce joueur expérimenté, ça a été raté avec Boateng, mais ça a été réussi avec... avec Lovren, et y compris pour des tas de choses. Loukeba qui est très très bon, avec un Lovren à côté, je pense qu'il va continuer à progresser et devenir le très très bon joueur que je pense qu'il va être.
Après, on va basculer sur la révélation de l'année, puis on aura aussi le Boulet, le Casper, mais sur ce taulier qui se partage entre Lopez, Lovren, moi j'avais Tagliafico aussi. Pourquoi vous ne le citez pas dans cette catégorie-là?
Ben parce que moi personnellement, ça me paraît être un tous les postes sont importants. Mais un arrière central expérimenté qui dirige un petit peu, pas seulement la défense, mais la base d'une équipe, c'est un peu plus important qu'un joueur de côté. Donc c'est vrai qu'il fait une très bonne saison, il est champion du monde aussi. Mais bon, il faut faire des choix, je préférais choisir Lovren.
Ok. Édouard, Tagliafico t'a plu aussi, mais tu...
Oui, c'est ouais. Un petit peu voilà, la même chose. Et puis c'est vrai que... Alors, vous allez me dire, on a noté peut-être, quand je vous ai parlé de Cacré, de Tolisso, voire de Lovren pour coach, des joueurs qui ont été à mi-temps ou par séquence. Lui, l'après-Coupe du Monde a été un petit peu difficile, hein, mais pour le reste, c'est
dur.
Vrai que... Oui, non, mais je suis très dur quand je dis ça.
Ouais.
Non, mais je l'ai peut-être un petit peu oublié, ça aurait pu être... Parce qu'il y a cet aspect de joueur et puis l'aspect aussi guerrier, et à un moment donné, ça manquait dans l'équipe.
Lopez, Lovren pour l'After Lyon. La révélation de l'année, et là, je pense qu'il peut y avoir débat, parce qu'en fonction des périodes de l'année... Édouard, tu mets qui, toi, révélation de l'année?
Bradley Barcola.
Ok. Coach?
Koumeni.
Ah. Et en fait, c'est marrant parce que...
Parce que Barcola, attention, c'est pas qu'il me plaît pas.
Ouais.
C'est que bon, c'est pas une surprise pour moi. Koumeni, qui soit meilleur...
Koumbedi.
Qui soit meilleur que... Malo Gusto. Transféré plus de 30 millions en Angleterre. Après, c'est moi qui le trouve meilleur. Ça veut pas dire que Malo Gusto... n'a pas quelques qualités, mais je pense que c'est un gros coup que fait Lyon. Récupérer cette somme d'argent pour le remplacer par un joueur qui, pour moi, ne sera pas inférieur à celui qui part, il sera peut-être même supérieur, ben, c'est un petit peu ça qui me fait choisir ce joueur-là.
Koumbédi qui vient du Havre et effectivement qui n'a pas coûté
très cher. 1 million.
Oui, et moi je mets Bradley Barcola parce que voilà, moi je trouve qu'il a saisi toutes les opportunités un petit peu à l'image d'un Sidney Govou à l'époque. C'est vrai qu'on fait beaucoup de parallèles entre les deux joueurs sur un certain nombre de déplacements, de buts, d'insouciance. Mais franchement, 9 passes décisives, c'est 15 titularisations pour 5 buts et 9 passes décisives en Ligue 1, mais à chaque fois il a su saisir sa chance. Karl Toko Ekambi s'en va mi-janvier. Le match d'après, il est titulaire, il marque, où il fait une passe décisive, il enchaîne. Derrière, le seul match où il n'est pas titulaire, c'est à Paris, et c'est Sarr qui commence. Celui-ci est blessé, finalement, il prend la place, qui marque et qui donne la victoire à l'OL, c'est lui. Voilà, je trouve qu'il y a des moments dans la saison où il a su saisir sa chance, et ça, c'était pas forcément donné. Et puis il a quand même fait un triplé de passes décisives sur un match face à Montpellier. Voilà, il est que ce soit à droite ou à gauche. Alors, j'ai regardé un petit peu, coach, ses stats, parce que toi tu l'aimes, tu le préfères à quel côté?
Nettement à gauche.
Ailier gauche.
Ailier gauche. Côté gauche.
Côté gauche, et bien alors là, il a marqué un but et il a fait 5 passes décisives. Et côté droit, 3 buts et 5 passes décisives. Presque 50% de ses buts et assists, c'est côté droit.
Oui, mais bon, entre les buts et le nombre de fois où il est dangereux, c'est peut-être ça les stats qui m'intéressent.
Voilà, donc je trouve qu'il a quand même des sacrés stats, et puis il a pris la... Vraiment, il a pris tout le monde de vitesse et pas seulement les défenseurs adverses.
Oui, parce que là, on parle de Barcola, mais il faut se rappeler qu'avant fin janvier, on l'avait très peu vu. Il avait fait 4-5 matchs, il avait joué 10 minutes. Il s'est installé fin janvier. Les stats dont on parle, c'est en moins de 6 mois. Quoi.
Voilà, ça devenait un bon joker qui rentre en cours de match et qui met un petit peu la panique. Mais là, c'est devenu un joueur très important et qui, en plus de ça... Mais la panique, mais d'entrée, parce que
titulaire,
là, il est plus sur le banc.
Indiscutable.
Il y a une seule fois où il n'est pas titulaire et marque un but, c'est le fameux match que je vous comptais de Paris. Pour le reste, à chaque fois, il est titulaire quand il fait tous ses buts, toutes ses passes décisives. Et encore une fois, il a vraiment profité du départ après le match de Strasbourg, c'était mi-janvier, le fameux match où Kaltoko et Cambi pètent les plombs. Donc Kaltoko et Cambi va à Rennes, lui il en profite et il saisit sa chance et il est jusqu'au bout titulaire.
Barcola et Koumbédi, révélation de l'année, je donne mon vote à Barcola également pour ces derniers mois. Et en réfléchissant, j'avais mis un troisième joueur qui a une deuxième partie de saison compliquée, à l'inverse finalement de Koumbédi et Barcola, c'est Yoann Le Penant qui a été bon en première partie de saison, dont on a beaucoup parlé. Sans aller jusqu'à révélation, est-ce que c'est un joueur, Roland, que tu as envie de revoir et tu te dis, ça peut être très fort
Oui, d'ailleurs, si tu veux, ce qui, je ne dis pas tue sa saison, mais allez, n'arrange pas sa saison du tout, c'est la connerie qu'il fait contre Montpellier, je crois, et rebelote derrière, où on sent qu'il n'a pas digéré la première bêtise. Et il en fait une deuxième. Bon, mais là, justement, on s'aperçoit que à côté de ces joueurs-là, qui seront et qui sont déjà de bons joueurs, et qui seront pour moi de très très bons joueurs, comme Le Penant, ben, un joueur expérimenté à côté aurait pu peut-être, parce que quand il fait cette bêtise, Doudou, si je me rappelle bien, on est dans une organisation avec Le Penant, numéro 6, c'est-à-dire sentinelle devant la défense, non ?
Il me semble, je regarde dans mes petits papiers.
Oui, je crois que c'était à l'époque où on était sur du 4-3-3.
Voilà, ça, je suis désolé, chacun ses goûts. Et Laurent, il sait ce qu'il a à faire, il a ses joueurs tous les jours aux entraînements. Mais mettre Le Penant, tu me dirais Tolisso, devant les deux arrières centraux, d'accord, mais Le Penant tout seul, dans une organisation où il y a un seul 6, je pense que c'est un peu trop lui demander pour aujourd'hui.
Et d'ailleurs, il s'en est rendu compte, Laurent Blanc, hein, puisqu'après il a changé d'organisation, et Le Penant en a fait les frais, puisqu'on est passé sur un 4-2-3-1 en fin de saison avec Tolisso et Cacré. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, vous qui nous écoutez, à commenter et à donner vos trophées de l'homme de la saison, le taulier, la révélation, le boulet, le Casper sur les réseaux. Vous commentez l'épisode en mettant vos joueurs de la saison également. On passe au boulet, messieurs, dames. Le boulet de la saison de l'Olympique Lyonnais pour vous. Allez, Edouard, mouille-toi en premier.
Oussem Aouar
pour toi.
Pourquoi ? Pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait et tout ce que tu as promis, quoi, en fait, dans le jeu à Lyon. Voilà, on se rappelle, hein, qu'en 2017, il a commencé et il a éclaté. Quand on pense que c'était presque le meilleur du Final 8 à Lisbonne en 2020, et quand on voit cette année, un but le 22 octobre à Montpellier, une passe décisive à 3 le 4 février, 6 fois sur le 11 de départ en 26 matchs où il a pu être dans le groupe, quoi, en fait. Une fin de contrat, une fin d'histoire à Lyon. Alors il a promis qu'il s'expliquerait sur pourquoi il est parti, pourquoi il n'est pas parti avant et ramener de l'argent à son club formateur.
On espère, attend, hein, c'est ce comme que... Benzema, il y a des joueurs comme ça, on attend qu'il s'explique, mais des fois on attend longtemps.
Coach. Ouais, cette carrière elle est loin d'être terminée, mais c'est vrai que pour le moment c'est pas seulement sur cette saison. Là, je pense même qu'on pourrait rajouter que c'est la saison de trop, puisque bon, il a été pratiquement et carrément absent. Mais bon, je vais quand même, moi, parler d'un autre joueur, décevant, et j'attends avec impatience de le revoir quand même, parce que même si je ne l'ai jamais trouvé extraordinaire, je ne l'ai jamais trouvé aussi mauvais ou aussi absent que ce qu'il a pu être là, c'est Dembélé, qui était quand même un attaquant puissant, qui pouvait servir à quelqu'un de fin comme peut l'être Lacazette. Un duo, pas seulement pendant les 90 minutes d'un match, mais un duo Dembélé-Lacazette dans un rôle de 9,5 avec le travail athlétique de Dembélé pour Lacazette. Ça me paraissait être une évidence et je ne l'ai jamais vu.
Et j'avais mis Dembélé aussi, coach 3 buts cette saison pour Moussa Dembélé, alors qu'on se souvient, Edouard, qu'il a pu faire des saisons avec beaucoup de buts côté lyonnais. Et on va conclure cette saison de l'Olympique lyonnais avec le Kasper, le joueur fantomatique de l'année. Évident, Edouard ?
Bah, évident. D'ailleurs, j'aurais dû regarder en allemand comment ça se... Voilà, Jérôme Boateng, en fait.
Je pense que ça se dit pareil, pour le coup.
Ouais. 90 minutes face à Lille le 30 octobre. Pour le reste, 7 minutes à 3 le 4 février. Et puis à la fin, bah voilà, à Reims, face à Reims, il fait 69 minutes parce qu'il y avait des blessures dans les défenseurs centraux, notamment Sinali Diomandé et Dejan Lovren. Et puis que dire de ces 45 dernières minutes face à Nice, quoi, qui résume toute la saison. Quoi,
en fait. Avec le but
et tout son passage, voilà, tout son passage à l'OL. Quoi.
8 matchs cette saison, 8 bouts de match, 430 minutes de jeu pour Jérôme Boateng, le Kasper d'Edouard. Coach, est-ce que t'en vois un autre ou...
Difficile de faire pire.
Kasper, j'avais Boateng également. Voilà pour notre conseil de classe de l'année. Les gars, on va conclure sur cette semaine avec l'actu chaude et qui correspond justement aussi aux joueurs, Edouard, parce que dans un an, quand il faudra faire le bilan, de quels joueurs parlerons-nous ? C'est toujours un peu flou, la cellule de recrutement, Bruno Chéroux qui vient. Bon, là, c'est en train de bouger justement, Edouard, on commence à y voir un peu plus clair.
Oui, alors je vous en avais déjà parlé, donc ça a été officialisé, Ludovic Gili départ du staff, il ne sera pas remplacé dans le staff de Laurent Blanc. Par contre, il y a Martin Buchet qui arrive, c'est quelqu'un qui va être directeur de la performance, passionné de préparation physique, il est au départ dans du hand du côté de Celesta, mais il a travaillé ensuite au Qatar et il a travaillé au PSG avec Laurent Blanc, qui le connaît bien, donc là c'est la partie physique. Et au niveau de l'académie aussi, il y a eu du changement au niveau de la direction de l'académie avec un nouveau qui revient, c'est Pierre Sage, il était adjoint d'Habib Bey du côté du Red Star. Donc il a déjà été, il est bien connu en région Rhône-Alpes, il a déjà été entraîneur à l'académie et il vient à la place de Jean-François Vuillet qui a demandé à passer son diplôme et quand on veut placer son diplôme, il faut avoir une équipe en responsabilité. Donc on cherche, a priori ça sera les U17, mais Jean-François Vuillet va rester en tant que directeur technique du centre de formation. Et puis, il y a l'officialisation de ce qu'on vous disait aussi, l'arrivée de Mathieu Louis-Jean au niveau du recrutement, directeur du recrutement. N'en sait pas plus sur sa cellule autour de lui. Il n'y a que lui qui arrive pour le moment. Hein. C'est un ancien footballeur du Havre. Il a 47 ans. Il a déjà été à l'Académie Scout de Liverpool. Il a été scout pour Manchester United en France. Il était et il est encore à l'OM jusqu'au 30 juin prochain. Il arrivera le 1er juillet à Lyon, donc il va arriver. Alors avec qui, comment ça va se passer avec l'actuelle cellule de recrutement? Alors parce qu'il ne prend pas le poste de Bruno Chéroux qui était quelque part un directeur sportif officieux, hein. Il avait le recrutement et il faisait aussi la sortie des joueurs, bien évidemment, puis il encadrait les joueurs, il leur parlait, que ce soit les hommes ou les filles. Alors la cellule de Bruno Chéroux, Roland, Thibault, elle était quand même un petit peu complète, hein. Alors certains vont dire qu'il n'y avait pas assez, mais en tout cas il y avait déjà Alain Caveglia, Michel Rouquet, Stéphane Anchaud, Alexandre Janin, plus Fabien Caballero qui était le recruteur au niveau des jeunes, par exemple c'est lui, hein, pour Sahel Koumbédi par exemple. Voilà. Et donc il y avait aussi quelqu'un qui faisait de la data. Je sais que beaucoup disaient qu'il n'y avait rien, mais il y a quand même beaucoup de choses. Alors donc il y a une période un petit peu de régence là, vous savez, on n'est pas en monarchie, mais c'est une période entre deux. Donc on n'est pas encore dans le recrutement directement parce qu'il y a la DNCG qui sera le juge de paix pour savoir les moyens, mais j'en ai déjà parlé ici, il y a des prêts qu'il faut gérer.
Ouais, des retours
donc,
de prêts.
Voilà, donc Pollersbeck, c'est déjà géré, Oscar Char, c'est déjà géré, mais il y en a beaucoup d'autres aussi à gérer. Et là, eh ben, qui travaille ? Eh bien, c'est Bruno Chéroux qui aide Vincent Ponceau parce que c'est un vrai travail, hein, pour sortir tous ces joueurs. Tino Kadewere, pourquoi pas à Mallorca, qui a une option d'achat de 8,5 millions. Karl Toko Ekambi, on en parlait tout à l'heure. A priori, ça ne sera pas une rupture de contrat, ça sera peut-être un transfert. Il y a Jeffrey Nedelaide, ça va être compliqué, lui qui n'a même pas été titulaire du côté de Troyes. Voilà, il y a tous ces dossiers-là qui vont être gérés par Bruno Chéroux. Et puis Mathieu Louis-Jean, à partir du 1er juillet. Alors, bien évidemment, il habite déjà un petit peu dans le quartier. Hein,
il traite ça un petit peu. Sous-marin, en sous-marin,
voilà,
comme on dit.
Il s'occupe un petit peu d'un certain nombre de choses et donc il travaille et il ne va pas arriver sur quelque chose qui n'existe pas parce que Bruno Chéroux va laisser un héritage. Il y a un certain nombre de choses qui sont en place, notamment une base de données de joueurs, les Lyonnais, que toute la cellule autour de Bruno Chéroux regarde depuis un certain temps. C'est par exemple 3000 joueurs qui sont sur une disquette et qui seront à disposition de l'OL. Ça, c'est de la construction, c'est de l'héritage.
Ils ne sont peut-être pas sur une disquette. J'espère qu'ils ne sont pas sur une disquette.
Non, oui, c'est vrai, sur une clé USB ou sur un, sur un site internet. Voilà,
ils sont sur Windows 95 et...
sur la PS4 ou je ne sais pas. Non, en tout cas, voilà, il y a des choses qui vont, voilà, dans cette période, aider le nouveau recruteur.
Coach, rapidement,
Non, simplement que, bon, faire un podcast sur Lyon, c'est toujours un plaisir pour nous. La question que je pose, et on va voir un petit peu ce qui va se passer dans les semaines à venir, et notamment avec la DNCG, c'est que est-ce que l'effectif de Lyon sera amélioré ou pas ? Parce que n'oublions pas que dans tout, on peut faire le tour de droite à gauche et de gauche à droite. Guimarães, Paqueta, pour moi, n'ont pas été, je parle aussi de Memphis Depay, ces trois joueurs-là n'ont pas été remplacés.
Et là, tiens, la passe D de coach...
Lacazette, allez, avec Memphis Depay, ok.
La passe D de coach Courbis pour Géant Grande qui relance sur Edouard parce que c'est une question de gros sous tout ça, évidemment. Est-ce que Lyon va se renforcer? Il y a l'histoire de la DNCG Edouard, et d'ailleurs la date a été décalée.
Oui, elle était décalée suite à des discussions de John Textor avec la DNCG pour essayer de le décaler le plus tard possible par rapport au 30 juin. Le 30 juin, la fin des comptes pour cette année. Donc, ça sera le 28 et non pas cette semaine, le 22 juin. Le temps peut-être de finaliser le rachat d'OL Reign, ou la vente plutôt d'OL Reign, le rapprochement de la structure d'OL féminin pour amener. Alors, ça ne sera pas de l'argent frais, mais ça sera des économies à terme parce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup de promesses et la DNCG veut des actes. Et parmi les actes, il y aura peut-être des ventes. Il va falloir des ventes parce que c'est vrai que Jean-Michel Aulas, sur le précédent, quand il était à la tête là, jusqu'au 5 mai, avait promis d'une certaine manière à la DNCG quelques 70 millions de ventes. Et là, John Textor, à un moment donné, alors il y a vraiment pas beaucoup d'infos qui circulent. Toutes les vannes sont fermées. Quelques rumeurs de ci, de là, où il voulait peut-être se présenter à la DNCG sans faire de vente de joueurs, sans amener de l'argent frais. Et on voit quand on, avec Fabrice Hawkins, on a travaillé par exemple sur la piste Castello-Luqueba. Voilà, il y a Leipzig qui a fait une première proposition. Il y a deux clubs anglais pourquoi pas un départ de Castello-Luqueba avant le 30 juin. Ça serait clairement pour amener de l'argent, pour affiner les comptes, parce que le juge de paix, ça va vraiment être la DNCG le 28. Et je vous dis qu'on tremble un petit peu dans les bureaux. Il peut y avoir des... ça ne va pas être simple.
Dans les tribunes aussi, on tremble un petit peu partout. Merci Edouard, merci coach.
Salut Doudou. Ciao.
Merci Jimmy et Tim en régie. Et merci surtout à vous d'avoir été là. Fidèle une fois de plus au rendez-vous du podcast After Lyon. Et je vous remercie vraiment parce que vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à nous écouter. Et ça fait plaisir. Merci d'avoir été là encore une fois. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde.
RMC After Lyon.